Allez, on passe tout de suite au marché. Évidemment, cette semaine, on a eu une belle remontée après Donald Trump qui, pour la 39e fois, a annoncé qu'on allait avoir un deal avant le G7. Je vous rappelle qu'il y a le G7 à Évian la semaine prochaine. Et donc, ils voudraient avoir un deal avant. Les Iraniens ont évidemment dit qu'ils étaient au courant de rien. Donc, on a l'impression que tout recommence comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Les marchés ont aimé. Ils ont remonté de 2%. Depuis le début de l'année, bon, on a toujours des actions européennes qui sont très en
surtout
retard.
Surtout Paris. Hein.
Très en retard. Bon, l'Eurostock, c'est pas terrible non plus. Hein. Et par contre, on a les actions américaines qui continuent, le Nasdaq. Avant de parler de tout ça, je voudrais qu'on parle de SpaceX. Ça y est, c'est fait. 75 milliards de dollars levés sans difficulté avec la clôture de l'opération jeudi, première cotation vendredi. On parle peut-être même de 88 milliards de dollars levés si on active la clause de surallocation. Une valorisation de 1 800 milliards de dollars. Je sais pas, ça vous inspire quoi, Frédéric, au-delà de... J'arrive même plus à avoir une opinion sur le sujet, en fait.
Alors, moi, c'est le sujet, c'est le dossier Elon Musk qu'il faudrait ouvrir là-dessus. Mmh. Parce que Elon Musk, en réalité, c'est le roi du storytelling. C'est quelqu'un qui... C'est pas un grand financier, Elon Musk. C'est un visionnaire, c'est tout ce que vous voulez. Vous savez quel est le résultat net d'Elon Musk depuis qu'il est dirigeant d'entreprise, en cumulé, depuis 30 ans?
Non.
Cet homme-là... 15 milliards net. Mmh. C'est-à-dire que en 30 ans de carrière à la tête de boîte, en passant par PayPal et autres, jusqu'à aujourd'hui, entre ce qu'il a investi, ce qu'il a dépensé et autres, c'est 15 milliards. C'est en gros...
Oui, il a créé de la valeur. Regardez la valeur de Tesla.
Oui, mais il n'a pas créé, si vous voulez, du revenu. C'est-à-dire que...
Ok.
Oh, oui, mais c'est de la valeur. Mais beaucoup derrière dans... Vous voyez,
non mais le Tesla par exemple, je comprends ce que vous dites, on va revenir à... Mais Tesla, ça fait un moment que ça dure.
Oui.
Et donc le storytelling, au bout d'un moment, ça s'effondre. Tesla s'est effondré et puis il est reparti. Oui. Donc ça vaut quand même...
Oui, boursièrement parlant, c'est pas l'automobile aujourd'hui que vous payez dans Tesla.
Oui.
C'est l'histoire d'après. Ouais. C'est les robots, c'est des choses qui sont dans la promesse. Sur SpaceX, c'est pas sur ce qui se passe actuellement, c'est sur la promesse, jusqu'à dire 1 million d'humains sur Mars. Donc on est dans, quelque part, cette volonté à chaque fois d'écrire l'histoire, mais ne pas acheter le pur financier. Parce que pur financier, 15 milliards en 30 ans, juste Arnaud...
Ok, c'est ce d'accord. Vous, un ami de la famille vient vous voir en sachant que vous êtes financier, en vous disant est-ce que j'achète du SpaceX? Parce que je rappelle que c'était accessible à travers tous les brokers.
Qui ont fait un gros ramdam.
On est actionnaire de la première heure, c'est-à-dire qu'on est actionnaire de quasiment depuis 2 ans et demi.
Donc qu'est-ce que vous leur dites? L'ami vous dit, qu'est-ce que je fais? Je souscris à l'IPO?
Je n'achète pas sur la partie financière, mais j'achète l'histoire, j'achète le momentum, j'achète autre chose. Mais je ne veux pas acheter, honnêtement, sur les fondamentaux, le titre.
Oui, enfin, ok, vous l'achetez quand même.
Mais oui, parce qu'eux, on a acheté. Après, regardez juste, je vais finir avec ça.
Allez-y.
Elon Musk, c'est la définition pour moi de l'homme clé. D'accord, dans les entreprises. Que vaut SpaceX sans Elon Musk? Que vaut cette société? Regardez, Warren Buffett prend sa retraite à 94 ans, le Berkshire. 20% de baisse, d'accord? Alors que les actifs sont cotés. Pourquoi? Parce qu'on estime que Warren Buffett, c'est l'image et c'est l'incarnation d'un investisseur.
Vous dites qu'il y a trop de dépendance par rapport à un homme.
Oui, et en plus, la société n'est pas auditée, hein, vous le savez, hein, parce qu'elle est contrôlée à 100% par Elon Musk. Donc, vous allez confier finalement à une société, si demain il arrive quoi que ce soit à Elon Musk, je ne suis pas sûr que l'entreprise ne soit pas démantelée derrière.
Ouais, on se disait ça avec Steve Jobs.
Voilà. Non, parce qu'il y a il y avait du produit, il y avait de la rentabilité
franchement,
aussi.
Moi, quand Steve Jobs est parti, est mort, je me suis dit, c'est fini, quoi, la boîte, elle est au tapis, et puis finalement...
Non, il y avait de l'activité, il y avait un écosystème qui existait, il y avait quand même autre chose.
Anna, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, je ne me prononce pas forcément sur SpaceX en particulier, mais je pense quand même qu'il y a une question de timing, parce qu'on a regardé justement aussi chez nous, chez Allianz, l'histoire des IPO technologiques. Ouais. Et c'est vrai que sur 15 ans, statistiquement parlant, il y a toujours une correction à un moment donné.
Ouais, donc, les chiffres sont dingues d'ailleurs. Ouais. Alors derrière, ça remonte, mais ça fait moins 50 la première année à peu près.
Oui, voilà. Et donc ça veut dire qu'effectivement, en moyenne, il y aura une correction de 10% sur les 12 prochains mois.
Oui, mais
le timing.
Si vous aviez du Google du premier jour, vous étiez content.
Non, mais écoutez, tout le monde critique SpaceX, mais tout le monde en a. La valorisation est dingue. Je vous rappelle quand
tout le monde en a.
Tout le monde critique, tout le monde en met un petit peu dans son portefeuille. C'est marrant. marrant parce qu'en début d'année, ça valait 850 milliards de valo. Maintenant, ça vaut 1750. Je voudrais qu'on m'explique comment en 6 mois, ça peut être x2. Ça vaut 112 fois le chiffre d'affaires. Ça a perdu 5 milliards. Donc, franchement, qu'on m'explique pourquoi on en est là. Et puis, franchement, la
somme... Mais vous dites tout le monde en a.
Mais parce que, si vous voulez, à court terme, on fait un coût financier comme dans les années 2000 où tout le monde souscrivait à toutes les IPO. Mais il faut sortir très, très vite de ce dossier. Parce qu'on croit en Elon Musk, on en achète, mais il faut vendre très vite. Alors, et c'est vrai que c'est survalorisé. Ouais. C'est complètement survalorisé. Il y a très peu de cas d'école comme ça d'une boîte aussi chère. 120 fois chiffre d'affaires pour une IPO. Franchement, Fred, toi qui fais de la bourse depuis 45 ans, trouve-moi une boîte comme ça.
Moi, j'ai essayé de regarder, parce qu'évidemment, la référence, ce n'est pas tellement la bulle de l'Internet, mais la bulle des télécoms. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on a tout, si on fait une checklist de tout ce qui fait une bulle, on a une bulle, ce qui ne dit pas qu'elle va exploser. On a une bulle, c'est-à-dire ce délire des particuliers, valoriser des sociétés qui perdent de l'argent, ces flux spéculatifs qui passent du Bitcoin à l'or pour aller sur SpaceX.
Juste sur le spatial.
Est-ce qu'on a une bulle d'abord?
Sur le spatial, oui, il y a une bulle.
Sur la bourse.
Sur la bourse en général.
Sur l'IA.
Quand vous regardez, par exemple, depuis le début de l'année, Microsoft, moins 15, Meta, moins 10, donc les valeurs, les GAFAM, il n'y a pas de bulle, puisqu'il y a des consolidations. Maintenant, c'est vrai que sur l'IA, tout le monde a envie d'en avoir. On l'a eu ça sur les semi-conducteurs. Vous avez une boîte par exemple, qui s'appelle Soitec à Paris dans le photonique qui perd encore de l'argent, qui a gagné 300% depuis le début de l'année parce que dès que vous prononcez le mot IA, il y a une bulle. Donc c'est vrai, on l'a vu pour Schneider et Legrand qui étaient des boîtes énergétiques qui sont devenues maintenant des boîtes de data center parce qu'elles font 20% de leur chiffre d'affaires dans les data centers et qui se payent 30 fois les bénéfices. Sur cet ensemble, il y a une bulle. Maintenant, je ne crois pas que sur le Nasdaq en général, il y a une bulle. C'est-à-dire que je pense que ces valeurs peuvent baisser. On a déjà vu que l'indice SOX des semi-conducteurs a baissé de 10%, mais je ne crois pas qu'il y a une bulle qui va s'effondrer comme en 2000 où tout montait avec souvent des modèles de valorisation extrêmement chers.
Donc vous dites
peu rentables.
Pas bulle, bulle sectorielle, mais pas la bulle générale sur les marchés. Frédéric, vous dites bulle ou pas bulle?
Quand SpaceX pèse plus lourd que les 10 sociétés les plus importantes de l'aérospatiale avec du business aérospatial, on peut estimer qu'elle ne fait que 20 milliards de chiffre d'affaires.
Vous dites...
On n'en est pas loin. Je veux dire,
ça, si c'est pas une bulle, ça y ressemble.
Ça sent un peu.
Mais sectoriel.
Ça semble quand même un peu à l'AOL Time Warner pour ceux qui ont un peu de mémoire.
Voilà, bien sûr.
C'est-à-dire, c'est la méga opération qui, mine de rien, a enclenché un.
Là où je suis pas d'accord avec Eric, c'est que j'entends ce que vous dites, Eric, mais si cette bulle sur ce secteur explose, on sait qu'il y a toujours un effet de ruissellement sur le reste.
On peut consolider. Mais vous savez où il peut y avoir un problème? Il peut y avoir un effet d'éviction. Parce que Anthropic, OpenAI, et SpaceX, qui vient en bourse, ça fait 300 milliards de levée de fonds. Et là, il peut y avoir un effet d'éviction. Mmh. C'est-à-dire qu'un gérant de fonds qui a, par exemple, du Nvidia, du Meta ou de l'Amazon peut vendre pour racheter.
C'est ce qui s'est passé. C'est une des explications de la baisse de l'or, quand même.
Bah oui, mais c'est
une des explications de la baisse des cryptos.
Bien sûr. Okay. Donc, s'il y a l'effet d'éviction qui peut avoir lieu, et là, c'est vrai que ça peut non pas s'effondrer, mais on peut avoir une consolidation de 20%.
Emmanuel, quand vous regardez ça avec vos yeux d'économiste,
les leçons de l'histoire, elles sont quand même imparables. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez cette combinaison d'innovation technologique qui ne vous permet pas de dire si la rentabilité de votre secteur c'est 3 ou 10, que vous avez une surabondance de liquidités, etc. Oui, ouais. À chaque fois, il y a eu des bulles.
Mais on ne sait pas quand elles explosent.
On ne sait jamais, c'est la définition.
Mais elles peuvent ne pas exploser, on peut perdre 20% que ça soit un effondrement comme en 2000.
Ouais. Mais 20%, ce n'est pas une bulle. 20%, c'est 50%.
Oui,
mais
c'est une correction.
20%, une vraie bulle, c'est quand tu as corrigé de 50% et que les cours sont encore trop chers. Voilà. C'est 20%,
c'est
une correction.
Mais ce n'est pas ce qui se passe sur les valeurs américaines dans le grand compte. Ce n'est
pas une bulle.
Donc ça veut dire.
Ça s'est toujours fini comme ça. Ça s'est fini comme ça, y compris à la bulle Internet.
Absolument.
Donc, il est possible que ça se termine comme ça. Après, la question, c'est ne pas acheter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire la valorisation avec ce que ça change dans l'économie. Et là, ce qu'on voit, c'est que plus le temps passe, plus on voit la diffusion dans l'économie.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, question, parce que ça devient macroéconomique.
Oui, mais la vraie question qu'il faut quand même se poser, c'est la disproportion des marges qu'encaissent ces sociétés et regardez ce que commencent à dire des entreprises. C'est que les agents IA, ça commence à coûter plus cher que les vrais gens, etc. Donc il y a un moment où la question des marges, finalement, elle va être questionnée aussi.
En sachant qu'ils perdent déjà de l'argent. Donc si on baisse le prix de vente, incontestablement, il y a une...
les gens sont pas dupes. Je veux dire une chose, les gens sont pas dupes. Vous avez un fabricant de chaussures qui s'appelait Allbirds, qui a dit, ben moi je vais faire de l'IA. L'action, elle a gagné 600% en une semaine, elle est montée à 20$. Et puis 3 semaines après, elle vaut plus que 3$. Donc les gens sont quand même pas dupes, contrairement à l'an 2000. Ils se rendent bien compte que quand il y a vraiment pas d'IA, il faut sortir de ce genre de dossier. Alors qu'en 2000, on achetait n'importe quoi, ça montait.